La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. En 2003, l'historien François Hartog publiait « Régime d'historicité », un ouvrage majeur devenu point d'ancrage pour tous ceux qui s'efforcent de penser notre rapport au temps et en particulier l'omniprésence du présent qui caractérise notre époque. C'est vers le passé que s'est une nouvelle fois tourné François Hartog, non pas le très loin passé de l'Antiquité dont il est l'un des spécialistes de l'historiographie, mais vers un auteur d'un passé plus proche, un auteur qui connut en son temps une gloire considérable et fit même scandale et dont le nom demeure attaché aujourd'hui de manière réductrice à la seule question de la nation. C'est donc en compagnie de François Hartog sur les traces d'Ernest Renan que nous allons sillonner pour cette dernière livraison de la 18e saison de La Suite dans les idées. François Hartog, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes directeur d'études à l'école des études en sciences sociales et vous publiez aux éditions Gallimard dans la collection L'Esprit de la Cité, la Nation, la Religion, l'Avenir, sous-titre Sur les traces d'Ernest Renan. Alors c'est un livre bref mais dense qui propose au lecteur des déplacements rapides entre la Bretagne natale d'Ernest Renan, différents quartiers et bâtiments importants de Paris, mais aussi l'Acropole, mais aussi le Moyen-Orient, la Palestine, des régions que Ernest Renan a visitées et qui sont pour vous l'occasion de revenir à grands pas et en même temps à pas extrêmement précis sur une trajectoire qu'on a en grande partie oubliée. Je voudrais commencer tout simplement en fait par là, François Hartog. Vous proposez de nous rappeler à grands traits qui a été et ce qu'a représenté aussi Ernest Renan dans ce 19e siècle. Aujourd'hui, son nom, je le rappelais, est attaché à un texte fameux sur la nation, qui est probablement celui qui est le plus cité, parfois mal d'ailleurs. Mais en fait, Renan a été une figure, j'allais dire presque aussi importante que celle de Victor Hugo. En tout cas, l'association a parfois été faite, François Hartog.
Oui, en effet, donc on peut partir de cet étonnement. Voilà. Un homme, un auteur, un penseur, un écrivain qui a occupé une surface considérable dans la seconde moitié du 19e siècle et qui, alors presque oui, c'est pas l'équivalent de Victor Hugo, mais presque, et même en termes éditorial, puisque le livre qui a fait scandale justement, ce livre qui est La vie de Jésus, eh bien les ventes de La vie de Jésus était presque comparable aux ventes des Misérables. Et les livres sont sortis pratiquement en même temps. Et Renan, à partir de ce scandale, jouait, au fond, sur les deux tableaux, à la fois sur le côté scandaleux et sur le côté savant, et aussi sur le côté politique.
Un des premiers best-sellers, on pourrait dire, d'idées de l'époque de la culture de masse, au fond.
Oui, oui. D'autant que La vie de Jésus, donc il paraît en 1863, devient presque instantanément un best-seller. Et c'est ensuite une affaire éditoriale qui est suivie, puisque immédiatement, il y a eu des rééditions, il y a eu une édition en ref abrégée, une édition populaire, il y a eu toutes sortes de manières, au fond, de décliner cette vie de Jésus. Donc, c'est aussi, du point de vue d'une histoire de l'édition, si l'on veut, c'est aussi un phénomène intéressant que la parution de ce livre, qui nous mène vers une édition non seulement professionnelle, mais qui se fabrique des best-sellers.
Mais alors pourquoi cette vie de Jésus a fait scandale au point que Renan est devenu pour Rome, pour l'Église catholique, l'antéchrist?
Oui, oui. Le grand blasphémateur a dit de lui Pie IX. Et il est devenu, parce que il y a cette phrase qui au départ a été prononcée au Collège de France lors de sa leçon inaugurale. Donc il arrive au Collège de France, il a une chaire d'études hébraïques, donc quelque chose de tout à fait sérieux, de philologie. Bon. Et à la leçon d'ouverture, Renan, dont on se méfiait, dont les catholiques et l'Église se méfiaient déjà, puisqu'il était un ancien séminariste.
Défroqué.
Il était un défroqué. Donc, l'arrivée au collège était déjà petit scandale dans les, au tout début des années 1860, sous le début de l'Empire libéral. Et il prononce cette phrase, « Jésus, cet homme incomparable ». Bon. « Jésus, cet homme incomparable », et puis la phrase se continue de manière assez compliquée. Ça, c'est un scandale. Vous ne pouvez pas, en 1862, dans une chaire au Collège de France, prononcer une pareille proposition, lancer une pareille proposition, et ça lui a valu la destitution.
De son poste
oui.
au collège,
oui, oui, oui.
où il reviendra plus tard,
avec la République.
Et dont il deviendra administrateur.
Oui, ensuite. Donc, le point de départ, c'est ça. Et naturellement, que c'est, il n'a pas dit ça tout à fait par hasard. Bon, c'est pas un homme qui se laissait aller comme ça à des impulsions. Bon, tout ça a été calculé. Il n'avait peut-être pas calculé l'ampleur du scandale, mais aussi il a su très bien utiliser ce scandale pour asseoir une position dans l'espace public. Parce que de ce jour, il est devenu connu. La vente du livre lui a rapporté de l'argent et il a donc eu une indépendance financière, puisque tout un temps, il n'avait plus eu de salaire quand même. Bon. Et il a joué, au fond, sur les deux tableaux. Il était celui qui était le précurseur, au fond, de la séparation de l'Église et de l'État. Bon, et c'est ça qui a fait que la Troisième République l'a célébré énormément.
La loi de séparation,
oui.
on peut l'inscrire, au fond, dans le cours d'une histoire
oui.
qui a impulsé, à bien des égards, Ernest Renan.
Oui, oui, il est considéré comme une des premières personnes un peu intellectuelles, disons, à aller dans cette direction et à prôner cette séparation. Bon, donc, ce côté-là. Et puis, du côté des catholiques, vous le rappeliez il y a un instant, il est vu comme l'antéchrist. Bon, parce que c'est celui qui, de l'intérieur même de la religion dans laquelle il a été élevé, vient dire « je ne crois pas au miracle, je ne crois pas que Jésus soit le Fils de Dieu, et par conséquent, il est plus abominable que si c'est quelqu'un qui n'a pas été élevé par l'Église qui vient dire une chose pareille. »
Alors. Je le rappelais en commençant cette émission, depuis un certain temps, vous travaillez sur l'historiographie depuis longtemps, mais depuis une quinzaine d'années, vous vous êtes attaché, à travers plusieurs livres, je citais le premier tout à l'heure, à penser ce que vous avez appelé les régimes d'historicité, c'est-à-dire la manière dont les sociétés entretiennent un rapport aux différentes temporalités, au passé, au présent, au futur. J'imagine que c'est par là que vous avez rencontré la figure de Renan qui lui-même s'est posé des questions sur le rapport au temps et surtout peut-être appartenait à une génération dans l'histoire, vous le dites à un moment, ceux qui sont nés entre 1815 et 1830, c'est-à-dire finalement relativement peu de temps après la Révolution française, donc à une époque où les cartes étaient rebattues dans les relations entre le passé et l'avenir, ce n'était plus le même monde, et vous citez aussi ce qu'en dit Tocqueville à un moment, c'était un monde dans lequel le passé ne dictait plus l'avenir comme il l'avait pu le faire avant cette Révolution française.
Oui, oui. Et c'est ce qui m'a amené vers Renan, c'est-à-dire cette question de l'avenir. Et Renan écrit justement ce livre qui s'appelle « L'avenir de la science », qui est un livre qui a eu un rôle aussi tout à fait important, et un livre qui a aussi eu un rôle tout à fait important dans sa propre vie, puisque il l'écrit quand il a 25 ans, donc juste après 1848, donc qui est un moment important pour lui, la révolution de 48. Il écrit ce livre, gros livre, qui montre une maturité extraordinaire pour un jeune homme de 25 ans, et il ne le publie qu'en 1890.
À la fin de sa vie.
À la fin de sa vie. Ça devient un testament. Pourquoi cet écart? J'essaye de m'interroger là-dessus et d'essayer de comprendre. Mais pour en rester à cette question du rapport au temps, Renan représente en effet cette génération encore proche de la Révolution, mais née après l'Empire, enfin le Premier Empire, et qui a l'impression que tout s'est joué avant eux. Qui vivent dans un monde assez tristouné.
Déjà la fin de l'histoire.
Oui. Donc pour nous, la grande référence, la colline de notre enfance, comme il dit, c'est la Révolution. C'est la Révolution de 89. Bon. Et tout ce qui s'ensuit. Donc Renan, qui n'est pas ensuite, il va réfléchir beaucoup sur ce temps moderne et devenir quelqu'un qui va sans arrêt insister sur la grande affaire de notre temps, c'est le devenir. On est passé d'un monde statique ou quasiment statique, de monde de l'être, à un monde qui est celui du devenir, où tout bouge, s'en transforme sans cesse. Et c'est ce monde-là qu'il va s'efforcer de penser.
Alors, vu d'aujourd'hui, ça peut nous sembler étrange que les gens de cette génération aient le sentiment que l'histoire s'était en quelque sorte arrêtée, qu'après la Révolution française, il n'était pas survenu d'événements considérables. Quand on pense à, vous en parliez à l'instant, 1848, cette révolution que Renan regarde à sa fenêtre, dites-vous, dans une forme de proximité et de distance à la fois, et moment où il écrit « Je l'avoue, je crois voir l'avenir ».
Oui.
C'est une phrase extraordinaire, enfin, oui. Clé pour comprendre le rapport de Renan avec ce temps contemporain et ses événements politiques.
Oui, je pense. Imaginez ce jeune homme, bon, qui n'a connu que sa Bretagne jusqu'à l'âge de 15 ans, qui pour lui vivait encore quasiment au Moyen-Âge. Il débarque à Paris au séminaire. Là, il est à la fois dans le monde moderne et puis dans ce monde quand même très clos du séminaire, d'où les tiraillements qu'il commence à ressentir intellectuellement. Il quitte le séminaire parce qu'il considère qu'il ne peut pas justement adhérer au miracle. Et il se trouve en plein quartier latin, et peu après, 1848. Donc il découvre là le social, les luttes sociales. Il découvre ce qu'il appelle, dans la préface de l'Avenir de la science de 1890, le socialisme. Bon, ce qu'il appelle là le socialisme. Et ça provoque chez lui une crise qui vient rencontrer celle qu'il a personnelle, qui était celle de son entrée dans un monde moderne, celui d'un temps moderne, celui d'un temps porté par le progrès, celui d'un temps du devenir, et avec une naïveté évidemment assez grande, il dit, en 1848, dans ces moments-là, j'ai eu l'impression que l'avenir était là, à portée de main, bon, que une société nouvelle allait pouvoir surgir, qu'il ne s'agissait plus il ne s'agissait pas de refaire 1789, et ça, il n'est pas du tout dans un rapport d'imitation au passé, donc tout ce ancien modèle de l'histoire maîtresse de vie, c'est pas son truc, et au contraire, il dit, ce qu'il nous faut, alors ça c'est son diagnostic, c'est une révolution intellectuelle, disait-il déjà, et morale. C'est une révolution qui porte non pas, et qui prenne en compte cette nouvelle classe que sont les ouvriers, les prolétaires, et qui comprennent, et que les bourgeois, la bourgeoisie comprennent, qu'elle doit faire une place à cette nouvelle classe et ne pas se conduire comme les aristocrates s'étaient conduits en 1789.
Alors, du coup, François Hartog, quelle a été votre méthode à vous ? Parce que vous êtes historien, vous travaillez sur un homme, une époque, des matériaux qui datent du 19e siècle, qui évidemment résonnent dans l'époque qui est la nôtre, à bien des égards, on va y revenir. Mais en aucun cas pour vous, il s'est agi de confondre les deux, d'écraser ces deux temporalités et de faire de Renan un héros pour notre temps ou nos temps contemporains. Comment vous avez procédé ? Je le disais, le livre prend la forme d'un voyage sur des traces, avec des arrêts à des moments et des lieux. Oui. Quelle est cette méthode ?
C'est une méthode que je forgeais en marchant, si j'ose dire. Même par les temps qui courent, consiste à faire des allers-retours. C'est une méthode fondée sur l'aller-retour. L'aller-retour présent-passé, passé-présent. Et c'est une méthode comparative, bon, mais qui porte sur l'élément structurant de la comparaison et le temps. Et c'est de mettre en regard, en confrontation, des configurations du passé avec celle d'aujourd'hui. pour essayer, alors non pas bien sûr de préconiser un retour à Renan, mais pour montrer, au contraire, pour mesurer les écarts. Et les écarts dans les deux sens. C'est-à-dire que, et ça, je crois que c'est justement ce qu'un historien peut faire, c'est mesurer les écarts dans les deux sens. Mesurer les écarts par rapport, lance un éclairage, produise un éclairage sur nos configurations présentes et nous en montre l'étrangeté. Ça nous permet de les regarder comme si nous étions à distance. Donc c'est une pratique qu'on peut qualifier, pour reprendre l'expression de Lévi-Strauss, de regard éloigné. C'est une pratique du regard éloigné.
Alors cette méthode, vous l'avez en particulier appliquée aux trois mots qui sont constitutifs du titre de votre livre, François Hartog, La nation, la religion, l'avenir. Trois mots centraux dans l'œuvre de Renan. Trois mots aussi qui peuvent peut-être expliquer une forme d'éclipse de Renan pendant un certain temps, puisque la nation semblait disparaître à mesure, par exemple, que la construction européenne se faisait jour ou que des phénomènes comme la mondialisation apparaissaient comme nouveaux alors que il est très ancien. La religion, pareil, enfin, l'horizon semblait être loin de la religion avant qu'elle ne revienne. Et puis l'avenir, voilà, no future, bon. Et c'est peut-être ça qui explique que Renan a cessé d'être lu. Mais ce qui se passe, c'est que sur un présent beaucoup plus bref, beaucoup plus court, on s'aperçoit que ces trois mots, ces trois concepts ont opéré un retour en force. D'où l'intérêt de relire Renan, non pas pour y trouver des réponses aux questions telles qu'elles se posent aujourd'hui, mais plutôt pour éclairer les questions telles qu'elles se posent aujourd'hui.
Oui, je crois que je suis parfaitement d'accord avec cette description que vous venez de donner. Et c'est bien pourquoi ce livre, bref, en effet, mais voulu comme tel, ce livre n'est pas une étude sur Renan. C'est un essai sur Renan autour de ces trois notions qui étaient centrales pour Renan. Et l'avenir, c'est au fond ce qui oriente toute sa vie intellectuelle. La religion, c'est ce qui habite sa vie du début à la fin. Parce que sortir, rompre avec l'Église catholique n'a pas signifié pour lui rompre avec la religion ou avec le religieux, tout au contraire. J'y reviendrai dans une seconde. Et puis, la nation, il a voulu réfléchir sur ce phénomène de la nation dans un contexte qui est celui des années 1880, c'est-à-dire à la suite de la défaite de la France devant la Prusse, à la suite de la perte de l'Alsace et de la Lorraine, mais il a voulu faire de sa réflexion non pas un texte de circonstance ou un texte militant ou un texte anti-germanique, il a voulu l'inscrire dans une perspective qui est celle d'une réflexion de type distancié sur cet objet politique qu'est la nation.
Alors, La Nation, ce texte très très court, cette conférence, puisqu'il s'agit d'une conférence qu'il prononce, est probablement le texte qui est aujourd'hui le plus célèbre de Renan. Je disais tout à l'heure, il fait l'objet de malentendus parfois, ou d'appropriations un peu étranges, mais il reste, selon vous, extrêmement pertinent pour penser cette question.
Oui, je dirais oui, dans la mesure où, tout en s'inscrivant complètement dans la conjoncture des années 1880, c'est-à-dire confrontation avec l'Allemagne et défense de la conception de la nationalité à la française, c'est-à-dire fondée sur la volonté d'être français, d'appartenir à la nation, face à une conception allemande qui est celle beaucoup plus historique, donc la langue, donc la race, donc tous ces déterminants-là. Et donc c'est bien dans ce cadre-là. Mais ça l'amène à proposer une réflexion qui écarte successivement tout ce qui pourrait être... Quel est, au fond du fond, qu'est-ce qui fait, au fond du fond, une nation ? Alors, ça n'est pas la langue, ça n'est pas la race, ça n'est pas l'économie, ça n'est pas la géographie, ça n'est même pas la religion. C'est la volonté d'être ensemble. Bon, le désir d'être ensemble, le désir de faire des choses ensemble, le désir de faire encore des choses ensemble, ou si possible de grandes choses ensemble. Bon. Et donc, c'était bien cette définition volontariste de la nation, mais il y ajoute... Dans cette perspective, bon, qui est celle d'un quelqu'un qui raisonne en termes d'individu, qui est un libéral, il y ajoute ce qu'on pourrait appeler, qui n'a pas le mot pour cela, tout ce qui relève de la mémoire collective. Tout ce qui fait, tout ce qui relève, au fond, de ce qui s'est sédimenté au fil des siècles. Et c'est, là, c'est aussi des souvenirs partagés et des souvenirs de malheurs partagés. Et c'est aussi... la nécessité, comme il le dit, sans s'y arrêter, de l'oubli. Et avec cette formule intéressante, oubli, oui, mais quoi, comment? Il prend comme exemple la Saint-Barthélemy. Et il dit, il faut avoir oublié la Saint-Barthélemy. Mais dès lors qu'on dit qu'il faut avoir oublié la Saint-Barthélemy, c'est bien qu'on s'en souvient d'une certaine manière. Donc il faut ne pas oublier qu'il faut l'oublier. Donc, c'est une définition beaucoup plus... où il y a plus de social qu'on ne pourrait le croire de prime abord, quand il dit simplement, au fond, c'est un principe abstrait. Non, il y a plus que ça dans sa définition de la nation, et je pense...
Il y a de l'histoire, en tout cas.
Oui, oui, il y a de l'histoire, et du temps, puisque la nation... Si j'en reviens à cette perspective temporelle ou des temporalités, la nation, c'est ce qui permet, pour l'heure, dit-il, parce que la nation aura une fin dans sa perspective évolutionniste, c'est ce qui permet, pour l'heure, de relier de la meilleure façon passé, présent et futur.
On est loin de l'identité nationale, en tout cas.
Très loin. Très loin. Parce qu'elle n'est pas substantielle, sa nation.
Alors, on n'aura pas le temps, je dirais, le livre est bref, mais il est extraordinairement dense, on n'aura pas le temps de parler de tout, de ce personnage incroyable qui est Bonhomme Système, évidemment de tout ce qui a trait à la question des Aryens et des Sémites, qui est la grande question, l'une des grandes questions à la fois scientifique, philologique à l'époque, et qui va produire ce qu'on sait politiquement, et Renan est embarqué dans ce débat de l'heure, bien évidemment. Il va d'ailleurs travailler lui-même, enfin il faut peut-être le redire, c'est-à-dire que sa production scientifique au Collège de France se porte sur les langues anciennes, sémitiques. Il est un savant de ce point de vue-là, de l'époque. Mais il y a des choses, et vous terminez le livre avec ses résonances pour le présent, et il y a des choses très très étonnantes, jusque-là peu remarquées, dites-vous, qui concernent l'islam. Ce qu'il appelle même l'islamisme, parce qu'il parle du christianisme, de l'islamisme,
du judaïsme
sur le même plan, enfin avec les mêmes concepts. Et c'est assez étonnant, parce que il a des mots très très durs pour l'islam. Il en a une vision que contestent les savants, pour le coup, qui sont apparus après et qui ont travaillé. Donc il fait partie de cet orientalisme cliché, on va dire. Mais il projette une vision terrifiante de l'islam, qui aujourd'hui prend une résonance toute particulière avec le prétendu État, le califat islamique.
Oui, c'est quelque chose qui m'a frappé, évidemment, en lisant ces textes. C'est que on faisait allusion à sa conférence inaugurale, où il y a la phrase sur Jésus, qui a valu
le scandale que vous avez dit, oui.
Viré. Bon. Et dans cette même conférence, vous avez ses propos sur l'islamisme, ce qu'il appelle l'islamisme, qui sont stupéfiants pour quelqu'un qui le lit aujourd'hui. Bon, ou qui sont en tout cas surprenants. Et personne, à ce moment-là, n'a trouvé à y redire. Ceux qui étaient pour Renan, ceux qui étaient contre Renan, bon, ça, c'était au fond l'opinion commune sur l'islam. Et ça prend alors maintenant une résonance encore plus étonnante que les phrases certaines des phrases de Renan à propos de l'islamisme semblent décrire la manière dont nous voyons aujourd'hui le comportement de Daesh. C'est-à-dire, au fond, c'est un monde où on ne peut rien dire d'autre que Dieu est Dieu. Et dans ce monde où la possibilité d'un État est impensable, d'une séparation de la religion et de l'État est impensable, bon, c'est la religion à son état pur. Hein, là. Alors, question, est-ce que Daesh, d'une certaine manière, nous renvoie en miroir cette image que nous avons, bon, de l'islam, ou est-ce que cette Daesh se conduit comme s'il souhaitait véritablement réaliser cette monstruosité d'un islam qui ne serait que cette pure profération « Dieu est Dieu ».
Merci beaucoup, François Hartog. Je rappelle le titre de votre livre « La nation, la religion, l'avenir » sur les traces d'Ernest Renan. C'est un ouvrage qui paraît dans la collection « L'esprit de la cité » aux éditions Gallimard. Vous trouvez la référence bibliographique sur la page de la suite dans les idées, une page sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission et sur laquelle vous pouvez vous abonner au podcast, retrouver toutes les émissions, par exemple, de cette 18e saison de la suite dans les idées qui s'achève. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et vous donne rendez-vous l'année prochaine. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Catherine Donnet. À la technique aujourd'hui, Claire Levasseur. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Et c'est Étienne Klein que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour la conversation scientifique.